Et si on écoutait aux portes ?
Si j'étais, une espèce, je serais.
Une cigale, en effet, parce que bah, je les connais bien, je les ai beaucoup étudiées, même si maintenant je les entends plus beaucoup. Parce que c'est bien finalement d'être sur un arbre à chanter toute la journée, puis à attendre une femelle qui passe, c'est peut-être pas mal. Et en plus, elles boivent en même temps.
Derrière le chant de la cigale se cache la voix de Jérôme Sueur.
Si j'étais un naturaliste du 21e siècle, je serais...
Alors, je suis un naturaliste, en fait, comme tous les chercheurs ici.
Jérôme Sueur.
Mais un naturaliste un petit peu particulier parce que je ne vais pas récolter des spécimens, des insectes ou des plantes ou des minéraux, mais je vais récolter des sons. Donc mes collections sont des collections de sons. Donc je fais de l'écologie ou aussi de la systématique parfois, mais en étudiant la part sonore en fait de la nature. Donc il y a deux disciplines qui sont concernées, c'est la bioacoustique qui est l'étude du comportement animal sonore, comment les oiseaux communiquent avec le son, qu'est-ce qu'ils se disent en chantant, en coassant, en stridulant. Et puis il y a l'écoacoustique, qui est une autre discipline, qui a été créée ici d'ailleurs au muséum. On l'a créée ici au muséum en 2014, et qui consiste à traiter des questions d'écologie, de suivi de la biodiversité, par le son. Donc pour faire simple, on écoute la nature et on essaie d'en déduire, d'en avoir des informations sur son fonctionnement, sur sa composition, sur son évolution, sur les menaces qui pèsent dessus. Donc le plus souvent, nous, on s'intéresse en fait à des milieux forestiers, et on enregistre ces forêts et on essaye de savoir quelles espèces sont présentes, comment est composé le paysage sonore de cette forêt, comment il évolue dans l'espace et dans le temps.
Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui ? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste ? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce ? Pour y répondre, vite, embarquons. Avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Le Nouveau Monde, en compagnie de Jérôme Sueur. Première escale, la curiosité est un joli défaut.
La découverte, l'exploration et en effet la curiosité. Moi, pour moi, c'est le maître mot de la recherche, c'est la curiosité. Je veux savoir. Donc je veux ouvrir la porte ou regarder par le trou de la serrure et là, plutôt écouter, écouter derrière la porte et savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, côté son, on n'en sait pas tant que ça. Et il y a énormément de choses à découvrir, à décrire, notamment, alors évidemment, c'est un peu facile, mais sous les tropiques, il y a énormément de sons qu'on ne connaît pas, notamment chez les insectes, énormément de paysages sonores qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas mis en collection aussi, hein, comme on met en collection des plantes dans un herbier. Pour prendre un exemple, en fait, tout proche d'ici, toutes les zones humides, les ruisseaux, les mares, les étangs, les lacs, sont pleins de sons qui sont essentiellement dus aux poissons pour les lacs, mais pour toutes les petites pièces d'eau qui sont dues aux insectes. Et en fait, on ne sait pas qui fait quoi. C'est-à-dire qu'on a une diversité, là, il y a un petit trou d'eau, il y a des insectes et des sons dedans, et en fait, je ne peux pas vous dire qui fait quoi.
On aurait dû prendre notre hydrophone.
On aurait dû prendre notre hydrophone, on a fait ça un petit peu, mais en fait c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que on voit pas, c'est de l'eau souvent sombre, donc on voit pas qu'ils chantent, on peut enregistrer mais on voit pas, et puis après quand on ramène les insectes, qu'on les met en captivité dans des aquariums, ils veulent pas chanter.
Position. Jardin des plantes, Muséum national d'histoire naturelle, Jardin du roi, intendance Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon.
Latitude
2 degrés est,
longitude
48 degrés nord. Et si, tel un naturaliste curieux, nous étions indiscrets et nous allions espionner la nature pour surprendre ses secrets? Et si, comme Jérôme Sueur, nous écoutions aux portes? Spécialiste du suivi de la biodiversité par l'acoustique, il enregistre les forêts et collectionne les sons qu'il range ensuite consciencieusement dans la sonothèque du Muséum national d'histoire naturelle dont il est le responsable. Mais au fait, depuis quand les naturalistes auscultent-ils les sons pour étudier la nature? Quels enjeux pour le XXIe siècle? Quelle différence entre bioacoustique et écoacoustique? Alors, larguons les amarres, ouvrons grand nos oreilles et laissons-le nous expliquer.
Alors, en bioacoustique, souvent on se concentre sur une espèce dont on va étudier les systèmes de communication. Alors ça peut être un oiseau, comme il y a dans le jardin, je sais pas, on pourrait étudier la communication des étourneaux sans sonnet qu'on voit beaucoup dans le jardin, ou alors des crapauds accoucheurs qu'on a aussi là derrière le bâtiment, et savoir mais qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils produisent ce son, quand est-ce qu'ils le produisent, quelle information est codée dans ce son, est-ce que ça veut dire je suis un mâle, je suis un crapaud accoucheur, je suis prêt à me reproduire, est-ce que ces mâles sont en compétition les uns avec les autres par le son, comment ce son se propage dans le milieu, comment il est reçu, comment il est interprété, voilà tout le comment et le pourquoi du son d'une espèce. Donc souvent on se concentre sur une espèce quand on fait de la bioacoustique, on fait du comportement, on pose des questions vraiment d'ordre comportemental. Et en écho-acoustique, le point d'écoute est en fait un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer sur une espèce, mais on va étudier plutôt un habitat, un environnement, ou tout un paysage, et où toutes les espèces en fait, vont chanter en même temps, et leurs sons vont être un petit peu emmêlés les uns avec les autres. Et donc là, on va enregistrer tout ce qui arrive, tout ce qui se passe autour, et de ces enregistrements globaux, on essaye d'avoir des informations sur, par exemple, le niveau de biodiversité. Est-ce que dans un enregistrement, qu'on pourrait faire dans le jardin des plantes, après tout, pourquoi pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui chantent? Quand est-ce qu'elles sont là? Où est-ce qu'elles sont dans le jardin? Est-ce qu'elles occupent un espace particulier dans le jardin ou pas? Est-ce que, on pourrait imaginer des questions, quand il y a plus de visiteurs dans le jardin, est-ce que finalement ces animaux chantent moins? Est-ce qu'ils se déplacent? Donc essayer d'étudier des facteurs qui vont potentiellement perturber ou au contraire améliorer les conditions sonores.
Et justement, alors, les sons que nous, en tant qu'hommes, notre espèce produit, ça fait partie de ce paysage sonore? Vous le prenez en compte?
Oui, oui, absolument. Un paysage sonore, sont tous les sons. Donc un paysage sonore, ça se divise en trois grandes parties. On parle de biophonie, qui sont tous les sons produits par les êtres vivants non humains, donc évidemment les animaux, les plantes c'est évidemment beaucoup plus rare. Il y a aussi ce qu'on appelle la géophonie, ça va être tous les sons qui sont abiotiques, qui ne sont pas liés à des êtres vivants mais qui sont naturels. Ça va être le son du vent, le son de l'eau qui coule, du tonnerre, d'une rivière, voilà. Et puis il y a l'anthropophonie, tous les sons produits par l'homme, donc la voix, la musique, le bruit des machines aussi surtout. Donc tout ça, ça forme un tout, et on essaie justement de comprendre un peu la part de chacune de chacun de ces ensembles sonores. Donc oui, l'humain est dedans. C'est vrai que nous, on aime bien s'éloigner des sites où il y a trop d'humains, où il y a trop d'anthropophonie. C'est le côté aussi naturaliste muséum. On va chercher des endroits parfois un petit peu éloignés où la nature est préservée, où la biodiversité est forte. Et donc, on va dans des forêts qui, a priori, sont préservées de ces sons humains. Mais quelquefois, on a des mauvaises surprises. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse plus à la biophonie, à la géophonie qu'à l'anthropophonie.
Et alors, depuis quand les naturalistes auscultent les sons ? Parce que quand je pense à Buffon au XVIIIe siècle, on était beaucoup sur l'observation, l'anatomie comparée, ouais. Les loupes, les microscopes, enfin voilà, même les planches et les fusains. Depuis quand est-ce qu'on ausculte les sons ?
Alors, en fait, dès Aristote, il y a déjà des descriptions des comportements sonores des animaux. Dans des coupes parfois inattendues, par exemple chez les poissons, voilà. Il y a des retours d'expérience, d'observation sur comment, quand les animaux produisent des sons et comment, enfin, quels sons ils produisent. Mais en fait, l'analyse des sons s'est surtout développée avec l'éthologie, l'étude du comportement animal, donc qui commence vraiment fin 19e siècle et puis qui s'est vraiment développée au cours du 20e siècle. Donc c'est assez tardif. Hein,
c'est
assez tardif. On a des mentions, en fait, dans l'histoire naturelle, c'est plutôt des mentions du comportement sonore sous la forme d'onomatopées. Mais, par exemple, dans les descriptions des espèces, c'est très très rare, dans les premières descriptions, d'avoir des mentions du comportement sonore. Hein. On est en effet sur la morphologie, l'anatomie, mais sur le comportement, ça vient après. En France, c'est Jean-Henri Fabre, par exemple, puisqu'on est dans un laboratoire ici qui fait de l'entomologie, a beaucoup décrit le comportement des insectes, et en particulier le comportement sonore des grillons, des sauterelles, des cigales. Mais c'est vraiment avec l'avènement de l'éthologie, avec Conrad Lorenz, Nico Tinbergen, von Frisch, qu'arrive la bioacoustique, hein, la description du comportement sonore.
Donc ça date de quand ?
On est au XXe siècle, et en fait, vraiment, le début de la bioacoustique, c'est lié à des développements techniques, en fait. C'est quand on a commencé vraiment à pouvoir enregistrer de manière assez facile, ça n'était pas tant que ça, dehors. Donc c'est avec l'avènement des premiers enregistreurs, des gros enregistreurs, des hueurs qu'on a à la radio aussi et qu'on avait à la radio aussi. Donc c'est en fait après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans les années 50. Donc c'est assez récent.
Alors c'est en me renseignant sur vous, j'ai lu une anecdote qui date de la Seconde Guerre mondiale où un sous-marin allié utilisait les sons des crevettes pistolets, ces crevettes qui font un son incroyable comme bouclier sonore pour se cacher des ennemis.
Oui.
C'est vrai ?
Alors oui, le début de la bioacoustique est surtout en fait sous-marin et lié à des questions militaires, de stratégie militaire. Et en effet, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre sous-marine. Les sous-mariniers se demandaient ce qu'étaient ces crépitements sonores qu'ils entendaient un peu partout, en pensant que ça pouvait être de l'activité ennemie. Et en fait, on s'est aperçu que ce sont des claquements dus à des crevettes qui appartiennent à plusieurs genres de crevettes, Alphaeus, Synalphaeus, enfin plusieurs types de crevettes, qui en fait ont des pinces un peu disproportionnées, développées, et qui claquent ces pinces, et le claquement des pinces produit un son qu'on entend un peu partout. Et ce son peut être tellement fort que certains sous-marins utilisent ce son comme des cachettes sonores. Dans un nuage comme ça sonore de crevettes, ça permet de faire une sorte de bouclier sonore. Donc il y a eu beaucoup de développement acoustique sous-marin lié à la navigation militaire, notamment aussi l'utilisation des dauphins, des mammifères marins. Et c'est encore le cas encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches qui est financée en fait par la Navy américaine.
Comment est-ce que vous, Jérôme Sueur, vous êtes devenu éco-acousticien, comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser au son en tant que naturaliste ?
J'ai commencé en étudiant des sons d'amphibiens d'Asie du Sud-Est que je n'avais pas enregistrés. Et après, j'ai travaillé sur le chant des cigales, donc vraiment sur le comportement des cigales, de certaines cigales, à savoir comment elles font leur son. Et après, en fait, je trouvais que c'était un petit peu limité, que j'étais un petit peu enfermé dans ce seul groupe. dans ces seuls insectes, et j'avais envie un petit peu d'élargir mon point de vue. Et en fait, c'est à la faveur d'une rencontre avec une collègue qui travaille ici, Sandrine Pavoine, qui fait de l'écologie et qui fait de l'estimation de la biodiversité par des outils mathématiques, on a réfléchi et qu'on a eu cette idée de créer des indices de diversité sonore. C'est-à-dire qu'à partir des enregistrements que l'on peut faire de milieux naturels, essayer par l'analyse des sons et puis par quelques transformations mathématiques, essayer d'estimer quel est le niveau de diversité sonore dans un enregistrement. Et donc là, moi, ça m'a ouvert plein de choses parce que j'étais plus fermé sur un groupe d'insectes, mais on enregistre tout, des insectes, des amphibiens, des oiseaux, des mammifères, c'est-à-dire tout ce qui passe. Et puis, il y avait peut-être une recherche aussi un petit peu d'essayer d'être utile. Je ne sais pas, on est aussi utile en étudiant le chant des cigales ou des grillons ou des oiseaux. Mais il y avait une approche plus d'écologie, de biologie de la conservation, éventuellement, j'espère, de protection. Alors, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire, c'est de sortir du cadre. Je pense que, c'est de changer aussi parfois de chemin. Bon, moi, je suis passé du comportement à l'écologie, c'était pas forcément facile. Les indices acoustiques, personne n'avait fait avant. Vous savez, quand j'ai commencé l'éco-acoustique, c'était pas très apprécié parce que j'avais une approche qui était très différente, qui n'était pas d'essayer d'identifier les espèces. Si au muséum, c'est l'activité principale, c'est d'identifier les espèces.
L'inventaire,
la systématique, de mettre un nom sur un animal ou un végétal. Et moi, on est arrivé, on a dit non, on ne va pas faire ça. On va enregistrer de manière globale et on ne va pas essayer de savoir ce qu'il y a dans les enregistrements, quelle espèce chante, on va essayer de qualifier de manière globale. On va changer le point d'observation, le point d'écoute. Et ça, ça parfois, était difficile à accepter. Je pense que ça l'est même encore. Parce que,
pourtant, aujourd'hui, ça a tout son sens. Hein.
Ça a son sens, mais ce n'est pas dans le fonctionnement classique de l'histoire naturelle. C'est une autre manière de voir et d'écouter, en fait.
Alors, prêt à sortir du cadre? Et si nous tracions de nouveaux chemins naturalistes et prenions un peu de hauteur? À suivre, le nouveau monde. Sur les pistes du vivant, en compagnie de l'éco-acousticien Jérôme Sueur. Première escale, et si on écoutait aux portes? La curiosité est un joli défaut. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.